Jules Verne, Le Sphinx des Glaces. Première partie, chapitre 2. La goélette Holbrane. 300 tonneaux de jauge, une mâture inclinée qui lui permet de pincer le vent, très rapide sous l'allure du plus près, une surface vélique comprenant au mât de misaine, misaine goélette, fortune, hunier et perroquet, au grand mât brigantine et flèche, à l'avant trinquette grand et petit phoque. Tel était le schooner attendu à Christmas Harbor, telle est la goélette Holbrane. À bord, il y avait un capitaine, un mât, ou lieutenant, un bossman, ou maître d'équipage, un coy, ou cuisinier, de plus, 8 matelots. Au total, 12 hommes, ce qui est suffisant pour la manœuvre. Solidement construit, membrure et bordage chevillés en cuivre, largement voilés, les façons d'arrière assez dégagées, ce bâtiment, très marin, très maniable, approprié à la navigation entre les 40e et 60e parallèles sud, faisait honneur au chantier de Birkenhead. Ces renseignements m'avaient été donnés par maître Atkins, et avec quel accompagnement d'éloge. Le capitaine Lengy de Liverpool était pour les 3/5e propriétaire de l'Holbrane qu'il commandait depuis 6 années environ. Il trafiquait dans les mers méridionales de l'Afrique et de l'Amérique, allant d'île en île et d'un continent à l'autre. Si sa goélette ne possédait qu'une douzaine d'hommes, c'est qu'elle se consacrait uniquement au commerce. Pour la chasse des amphibies, phoques et veaux marins, il eût fallu un équipage plus nombreux, avec les engins, harpons, faunes, lignes, exigés pour ses rudes opérations. J'ajoute qu'au milieu de ces parages peu sûrs, fréquentés à cette époque par des pirates, et aux approches des îles qui doivent être tenues en défiance, une agression n'eût pas pris l'Holbrane au dépourvu. 4 pierriers, une suffisante quantité de boulets et de paquets de mitraille, une soute aux poudres convenablement garnie, des fusils, des pistolets, des carabines accrochées au râtelier, enfin des filets de bastingage. Cela garantissait sa sécurité. En outre, les hommes de quart ne dormaient jamais que d'un œil. Naviguer sur ces mers, sans avoir pris ces précautions, aurait été de rare imprudence. Ce matin-là, 7 août, encore couché, à demi sommeillant, je fus tiré de mon lit par la grosse voix de l'aubergiste et par les coups de poing dont il ébranlait ma porte. « Monsieur Jeorling, êtes-vous réveillé ?»« Sans doute, maître Atkins, et comment ne le serait-on pas avec tout ce tapage ?» Qu'y a-t-il? Un navire à 6 000 au large, dans le nord-est, et le cap sur Christmas. Serait-ce l'Holbrane? M'écriai-je en rejetant vivement mes couvertures. Nous le saurons dans quelques heures, monsieur Jeorling. En tout cas, voilà le premier bateau de l'année, et il n'est que juste de lui faire bon accueil. Je m'habillai en un tour de main et rejoignis Fenimore Atkins sur le quai, à l'endroit où l'horizon se présentait au regard sous un angle très ouvert, entre les deux pointes de la baie de Christmas Harbor. Le temps était assez clair, le large dégagé des dernières brumes, la mer tranquille sous petite brise. Le ciel d'ailleurs, grâce au vent régulier, est plus lumineux de ce côté des Kerguelen qu'à l'opposé. Une 20aine d'habitants, pêcheurs pour la plupart, entouraient maître Atkins, lequel était sans contredit le personnage le plus considérable et le plus considéré de l'archipel, en conséquence le plus écouté. Le vent favorisait alors l'entrée de la baie. Mais la marée étant basse, le navire signalé, un schooner, évoluait sans hâte sous ses basses voiles, attendant le plein du flot. Le groupe discutait, et très impatient, je suivais la discussion sans m'y mêler. Les avis étaient partagés, et appuyé avec un égal entêtement. Je dois l'avouer, et cela me chagrinait, la majorité tenait contre l'opinion que ce schooner fût la goélette Holbrane. 2 ou 3 seulement se déclaraient pour l'affirmative, et avec eux le maître du cormoran vert. « C'est l'Holbrane, » répétait-il. « Le capitaine Lengy ne pas arrivé le premier au Kerguelen. Allons donc, c'est lui. J'en suis aussi certain que s'il était là, sa main dans la mienne. » Et traitant de 100 picules de pommes de terre pour renouveler sa provision. « Vous avez de la brume dans les paupières, monsieur Atkins, » répliqua l'un des pêcheurs. Pas tant que toi dans le cerveau, répondit aigrement l'aubergiste. Ce bâtiment-là n'a pas la coupe d'un Anglais, déclara un autre. Avec son avant effilé et sa tonture accusée, je le croirais de construction américaine. Non, c'est un Anglais, repartit Monsieur Atkins, et je serais capable de dire de quel chantier il est sorti. Oui, les chantiers de Birkenhead à Liverpool, d'où l'Holbein a été lancé. Point, affirma un vieux marin. Ce schooner-là a été mis sur l'étain à Baltimore, chez Nipper et Strange. Ce sont les eaux de la Chesapeake qui ont étraîné sa quille. Dis donc les yeux de la Mersey, abominable nigaud, répliqua maître Atkins. Tiens, essuie tes lunettes et regarde un peu le pavillon qui monte à sa corne. Anglais, s'écria tout le groupe. Et en effet, le pavillon du Royaume-Uni venait de déployer son étamine rouge, frappé à l'angle du yacht britannique. Plus de doute, c'était bien un navire anglais qui se dirigeait vers la passe de Christmas Harbour. Mais ce point établi, il ne s'ensuivait pas nécessairement que ce fût la goélette du capitaine Lengy. 2 heures après, cela n'aurait pu faire l'objet d'un débat. Avant midi, l'Holbein avait pris son mouillage par 4 brasses au milieu de Christmas Harbour. Grande démonstration, gestes et paroles, de maître Atkins à l'égard du capitaine de l'Holbein, qui me parut être moins expansif. Un homme de 45 ans, complexion sanguine, membrure solide comme celle de sa goélette, tête forte, chevelure déjà grisonnante, yeux noirs dont la prunelle brillait avec des ardeurs de braise sous des sourcils épais, teint hâlé, lèvres serrées qui découvraient une denture fortement implantée dans des mâchoires puissantes, menton prolongé par la barbiche en gros poils roux, bras et jambes de toute vigueur, tel m'apparut le capitaine Lengy. Physionomie non pas dure, plutôt impassible, celle d'un individu très renfermé, qui ne livre pas volontiers ses secrets. Ainsi que cela me fut raconté le jour même par quelqu'un de mieux informé que maître Atkins, bien que mon hôtelier se prétendît grand ami du capitaine. La vérité est que personne ne pouvait se flatter d'avoir pénétré cette nature assez rébarbative. Autant mentionner tout de suite que l'individu auquel j'ai fait allusion était le bossman de l'Holbein, un nommé Hurliguerly, natif de l'île de Wight, 44 ans, taille moyenne, trapu, vigoureux, les bras écartés du corps, les jambes arquées, la tête en boule sur un coup de taureau, la poitrine large à contenir 2 paires de poumons. Et je me demandais s'il ne les possédait pas, tant il dépensait d'air dans l'acte de la respiration, toujours soufflant, toujours parlant, l'œil goguenard, la mine rieuse avec son réseau de rides sous les yeux, produite par l'incessante contraction du grand zygomatique. Notons une boucle, une seule, qui pendait au lobe de son oreille gauche. Quel contraste avec le commandant de la goélette, et comment 2 êtres si dissemblables parvenaient-ils à s'entendre? Ils s'entendaient pourtant, puisque depuis une 15aine d'années, ils avaient navigué ensemble. D'abord sur le brig Power, qui avait été remplacé par le schooner Holbein, 6 ans avant le début de cette histoire. Hurliguerly, dès son arrivée, apprit par Fenimore Atkins que si le capitaine Lengy y consentait, je prendrais passage à son bord. Aussi fut sans présentation ni préparation que le bossman s'approcha de moi dans l'après-midi. Il connaissait déjà mon nom, et m'accosta en ces termes. « Monsieur Jeorling, je vous salue. »« Je vous salue de même, mon ami, » répondis-je. « Que me voulez-vous ? » « Vous offrir mes services. »« Vos services ? À quel propos ? » ?»« À propos de l'intention que vous avez d'embarquer sur l'Holbein. » »« Qui êtes-vous ? » ?»« Le bossman Hurliguerly, ainsi dénommé. » Et porté sur l'état nominatif de l'équipage, et en outre le fidèle compagnon du capitaine Lengy, qui l'écoute volontiers, bien qu'il ait la réputation de n'écouter personne. La pensée me vint alors que je ferais bien d'utiliser un homme si prompt à obliger, lequel ne paraissait pas le moins du monde douter de son influence sur le capitaine Lengy. Je répondis donc « Eh bien, mon ami, causons !» si vos fonctions ne vous réclament pas en ce moment. « J'ai 2 heures devant moi, monsieur Jeorling, D'ailleurs, peu de travail aujourd'hui. Demain, quelques marchandises à débarquer, quelques provisions à renouveler. Tout cela, c'est le temps de repos pour l'équipage, si vous êtes libre, comme je le suis. Et ce disant, il agitait sa main vers le fond du port, dans une direction qui lui était familière. Ne sommes-nous pas bien ici pour causer? Observai-je en le retenant. Causer, monsieur Jeorling, causer debout, et le gosier sec, lorsqu'il est si facile de s'asseoir dans un coin du cormoran vert, devant deux tasses de thé au whisky. Je ne bois point, Bosman. Soit, je boirai pour deux. Oh, ne croyez pas que vous ayez affaire à un ivrogne. Non, jamais plus qu'il ne faut, mais autant qu'il faut. Et je suivis ce marin, évidemment habitué à nager dans les eaux des cabarets. Et tandis que maître Atkins s'occupait, sur le pont de la Goélette, à débattre ses prix d'achat et de vente, nous prîmes place dans la grande salle de son auberge. Tout d'abord, je dis au bossman. C'est précisément sur Atkins que je comptais pour me mettre en rapport avec le capitaine Lengy, car il le connaît très particulièrement, si je ne me trompe. Pff, fit Hurliguerly. Fenimore Atkins est un brave homme, et il a l'estime du capitaine. En somme, il ne me vaut pas. Laissez-moi me démarcher, monsieur Jeorling. Est-ce donc une affaire si difficile à traiter, Bosman? Et n'y a-t-il pas une cabine de libre à bord de l'Holbein? La plus petite me conviendra, et je paierai. Très bien, monsieur Jeorling. Il y a une cabine, en abord du Roof, qui n'a jamais servi à personne. Et puisque vous ne regardez pas à vider votre poche, si cela est nécessaire. Toutefois, entre nous, il convient d'être plus malin que vous ne le pensez, et que ne l'est mon vieil Atkins, pour décider le capitaine Lengy à prendre un passager. Oui, ce n'est pas trop de toute la malice du bon garçon, qui est en train de boire à votre santé, en regrettant que vous ne lui rendiez pas l'appareil. Et de quel dardement de l'œil droit, tandis qu'il fermait l'œil gauche, Hurliguerly accompagna cette déclaration. Il semblait que toute la vivacité que possédaient ses deux yeux eût passé à travers la prunelle d'un seul. Inutile d'ajouter que la queue de cette belle phrase se noya dans un verre de whisky, dont le bossman n'en était pas à apprécier l'excellence, puisque le cormoran vert ne se fournissait qu'à la cambuse de l'Holbein. Puis ce diable d'homme tira de sa veste une pipe noire et courte, la bourra, la couronna d'un capuchon de tabac, l'alluma, après l'avoir fortement implanté dans l'interstice de deux molaires au coin de sa bouche, et il s'en tourbillonna d'une telle fumée, comme un steamer en pleine chauffe, que sa tête disparaissait derrière un nuage grisâtre. « Monsieur Hurliguerly, dis-je. Monsieur Jeorling, pourquoi votre capitaine répugnerait-il à m'accepter ?»« Parce que ce n'est pas dans ses idées de prendre des passagers à son bord. » Et jusqu'ici, il a toujours refusé les propositions de ce genre. Quelle raison, je vous le demande? Eh, parce qu'il veut n'être point embarrassé dans ses allures, aller où il lui plaît, rebrousser chemin pour peu que cela lui convienne. Au nord ou au sud, au couchant ou en levant, sans en donner de motif à personne. Ces mers du sud, il ne les quitte jamais, monsieur Jeorling. Et voilà belles années que nous les courons ensemble, entre l'Australie à l'est, et l'Amérique à l'ouest, allant d'Hobartown au Kerguelen, à Tristan d'Acunha aux Falklands, ne relâchant que le temps de vendre notre cargaison, quelquefois pointant jusqu'à la mer Antarctique. Dans ces conditions, vous le comprenez, un passager pourrait être gênant. Et d'ailleurs, lequel voudrait embarquer sur l'Holbein, puisqu'elle n'aime pas à taquiner la brise et va un peu où le vent la pousse. Je me demandais si le bossman ne cherchait point à faire de sa goélette un bâtiment mystérieux, naviguant au hasard, ne s'arrêtant guère en ses relâches, une sorte de navire errant des hautes latitudes, sous le commandement d'un capitaine fantasmatique. Quoi qu'il en soit, je lui dis. Enfin, l'Holbein va quitter les Kerguelen dans 4 ou 5 jours. Sûr. Et cette fois, elle mettra le cap à l'ouest pour gagner Tristan d'Acunha. Probable. Eh bien, Bosman, cette probabilité me suffira, et puisque vous m'offrez vos bons offices, décidez le capitaine Lengy à m'accepter comme passager. C'est comme si c'était fait. À merveille, Hurliguerly, et vous n'aurez pas lieu de vous en repentir. Eh, monsieur Jeorling, répliqua ce singulier maître d'équipage, en secouant la tête comme s'il fût sorti de l'eau. Je n'ai jamais à me repentir de rien. Et je sais bien qu'en vous rendant service, je ne m'en repentirai point. Maintenant, si vous le permettez, je vais prendre congé de vous, sans même attendre le retour de l'ami Atkins, et regagner mon bord. » Après avoir vidé d'un coup son dernier verre de whisky, je crus que le verre allait disparaître dans le gosier avec la liqueur, Hurliguerly m'adressa un sourire de protection. Puis, son gros torse se balançant sur le double arc de ses jambes, empanaché de l'âcre fumée qui s'échappait du fourneau de sa pipe, il sortit et laissa porter au nord-est du cormoran vert. Devant la table, je restais sous l'emprise de réflexions assez contradictoires. Au vrai, qu'était-ce ce capitaine Lengy? Maître Atkins me l'avait donné comme un bon marin doublé d'un brave homme. Qu'il fût l'un et l'autre, rien ne m'autorisait à en douter. Original toutefois, d'après ce que venait de me dire le bosseman. Jamais, je l'avoue, il ne m'était venu à l'esprit que la proposition d'embarquer sur l'Holbrain pût soulever quelques difficultés, du moment que j'entendais ne point regarder au prix et me contenter de la vie du bord. Quelle raison le capitaine Lengy aurait-il de m'opposer un refus? Était-il admissible qu'il ne voulût pas se lier par un engagement, ni être obligé de se rendre à tel endroit si au cours de sa navigation il lui prenait la fantaisie d'aller à tel autre? Ou bien avait-il des motifs particuliers pour se défier d'un étranger, eu égard à son genre de navigation? Faisait-il de la contrebande ou de la traite, commerce encore très exercé à cette époque dans les mers du Sud? Explication plausible, après tout, bien que mon digne aubergiste répondît de l'Holbrain et de son capitaine. Honnête navire, honnête commandant, Fenimore Atkins se portait garant de l'un et de l'autre. C'était bien quelque chose, s'ils ne s'illusionnaient pas sur leur compte à tous deux. En somme, ils ne connaissaient le capitaine Lengy que pour le voir, une fois l'an, relâché au Kerguelen, où il ne se livrait qu'à des opérations régulières, lesquelles ne pouvaient laisser prise à aucune suspicion. D'autre part, je me demandais si, dans le but de donner plus d'importance à ses offres de service, le bosseman n'avait pas cherché à se faire valoir. Peut-être le capitaine Lengy serait-il très satisfait, très heureux d'avoir à son bord un passager aussi accommodant que j'avais la prétention de l'être, et qui ne regarderait pas au prix du passage. Une heure plus tard, je rencontrai l'aubergiste sur le port et je le mis au courant. Ah, ce satané Hurliguerly, toujours le même. Allons croire, le capitaine Lengy ne se moucherait pas sans le consulter. Voyez-vous, c'est un drôle d'homme, ce bosseman, monsieur Jeorling. Pas méchant, pas bête, mais tireur de dollars ou de guinées en diable. Si vous tombez entre ses mains, gare à votre bourse. Boutonnez votre poche ou votre gousset et ne vous laissez pas attraper. Merci du conseil, Atkins. Dites-moi, vous avez déjà causé avec le capitaine Lengy? Lui avez-vous parlé? Pas encore, monsieur Jeorling. Nous avons le temps. L'Holbrain ne fait qu'arriver et n'a même pas évité sur son ancre au jusant. Soit, mais, vous le comprenez, je désire être fixé le plus tôt possible. Un peu de patience. J'ai hâte de savoir à quoi m'en tenir. Eh, il n'y a rien à craindre, monsieur Jeorling. Les choses iront toutes seules. D'ailleurs, à défaut de l'Holbrain, vous ne seriez point embarrassé. Avec la saison de pêche, Christmas Harbor comptera bientôt plus de navires qu'il n'y a de maisons autour du cormoran vert. Rapportez-vous-en à moi. Je me charge de votre embarquement. Dans tout cela, rien que des mots. Le bosseman d'un côté, maître Atkins de l'autre. Aussi, malgré leurs belles promesses, je me résolus de m'adresser directement au capitaine Lengy, si peu abordable qu'il fût, et de l'entretenir de mon projet dès que je le rencontrerais seul. L'occasion ne s'offrit que le lendemain. Jusque-là, j'avais flâné le long du quai, examinant le schooner, un navire de construction remarquable et de grande solidité. Et c'est une qualité indispensable dans ces mers où les glaces dérivent parfois au-delà du 50e parallèle. C'était l'après-midi. Lorsque je m'approchai du capitaine Lengy, je compris qu'il aurait préféré m'éviter. À Christmas Harbor, il va de soi que cette petite population de pêcheurs ne se renouvelle guère. Peut-être sur les bâtiments, Assez nombreux à cette époque, je le répète, quelques Kerguéléens prenaient-ils du service pour remplacer des absents ou des disparus? Au fond, cette population ne se modifie pas, et le capitaine Lenghi devait la connaître, individu par individu. Dans quelques semaines, il eût pu s'y tromper, alors que toute la flottille aurait versé son personnel sur les quais, où régnerait une animation peu habituelle qui finirait avec la saison. Mais à cette date, en ce mois d'août, l'Holborn, profitant d'un hiver dont la douceur avait été véritablement exceptionnelle, était seul au milieu du port. Il était donc impossible que le capitaine Lenghi n'eût pas deviné en moi un étranger, lors même que le bosseman et l'aubergiste n'eussent pas encore fait de démarche à mon sujet. Or son attitude ne pouvait signifier que ceci. Ou ma proposition lui avait été communiquée, et il n'entendait pas y donner suite, ou ni Hurliguerly ni Atkins ne lui avaient parlé depuis la veille. Dans ce dernier cas, s'il s'éloignait de moi, c'est qu'il obéissait à sa nature peu communicative, c'est qu'il ne lui convenait pas d'entrer en relation avec un inconnu. Cependant, l'impatience me saisit. Si ce hérisson me refusait, eh bien, j'en serais pour un refus. L'obliger à me prendre à son bord malgré lui, je n'en avais pas la prétention. Je n'étais même pas son compatriote. D'ailleurs, aucun consul ni agent américain ne résidait au Kerguelen, près duquel j'aurais pu me plaindre. Avant tout, il importait que je fusse fixé. Et, si je me heurtais à un nom, du capitaine Lenghi, j'en serais quitte pour attendre l'arrivée d'un autre navire plus complaisant, ce qui ne me retarderait que de 2 ou 3 semaines. Au moment où j'allais l'accoster, le lieutenant du bord vint rejoindre son capitaine. Celui-ci profita de l'occasion pour s'éloigner, et faisant signe à l'officier de le suivre, il contourna le fond du port et disparut à l'angle d'une roche en remontant la baie sur sa rive septentrionale. « Au diable !» pensai-je. « J'ai tout lieu de croire qu'il me sera difficile d'arriver à mes fins. Mais ce n'est que partie remise. Demain, dans la matinée, j'irai à bord de l'Holborn. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il faudra bien que ce Lenghi m'entende et qu'il me réponde oui ou non. » D'ailleurs, il se pouvait que vers l'heure du dîner, le capitaine Lenghi vint au Cormoran vert, où d'habitude les marins déjeunaient et dînaient durant les relâches. Après quelques mois de mer, on aime à varier un menu généralement réduit aux biscuits et à la viande salée. La santé l'exige même, et tandis que des vivres frais sont mis à la disposition des équipages, les officiers se trouvent mieux de manger à l'auberge. Je ne doutais pas que mon ami Atkins fût préparé à recevoir convenablement le capitaine, le lieutenant, et aussi le bosseman de la goélette. J'attendis donc, je ne me mis à table que fort tard. J'en fus pour une déception. Non, ni le capitaine Lenghi, ni personne du bord, ne vinrent honorer de leur présence le cormoran vert. Je dus dîner seul, comme je le faisais chaque jour depuis 2 mois déjà, car on se le figure aisément, les clients de maître Atkins ne se renouvelaient guère pendant la mauvaise saison. Le repas terminé, vers 7h30, la nuit faite, j'allais me promener sur le port du côté des maisons. Le quai était désert. Les fenêtres de l'auberge donnaient un peu de clarté. De l'équipage de l'Holborn, pas un homme à terre. Les canots avaient raillé, et au bout de leur bosse, se balançaient dans le clapotis de la mer montante. C'était vraiment comme un poste de caserne, ce schooner, où l'on consignait les matelots dès le coucher du soleil. Cette mesure devait singulièrement contrarier ce bavard et ce buveur d'Hurliguerly, trop enclin, je le supposais, à courir d'un cabaret à l'autre au cours des relâches. Je ne l'aperçus pas plus que son capitaine aux alentours du cormoran vert. Je restai jusqu'à 9 heures, faisant les 100 pas par le travers de la goélette. Graduellement, la masse du navire s'était assombrie. Les eaux de la baie ne reflétaient plus qu'un tire-bouchon de lumière, celle du fanal de l'avant, suspendue à l'étai de misaine. Je revins à l'auberge, où je trouvai Fenimore Atkins fumant sa pipe près de la porte. « Atkins, lui dis-je, il paraît que le capitaine Lenghi n'aime point à fréquenter votre auberge. Il y vient quelquefois le dimanche, et aujourd'hui c'est samedi, monsieur Jeorling. » Vous ne lui avez pas parlé? Si, me répondit mon hôtelier d'un ton qui dénotait un visible embarras. Vous lui avez annoncé qu'une personne de votre connaissance désirait s'embarquer sur l'Old Brain?
Oui.
Et qu'a-t-il répondu? Pas comme je l'aurais voulu, ni comme vous le désirez, monsieur Jarling. Il refuse?
À peu près,
si c'est un refus que de m'avoir dit. Atkins, ma goélette n'est pas faite pour recevoir des passagers. Je n'en ai jamais pris et ne compte point en jamais prendre.